Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. D'argile et d'abeilles pour une apiculture douce. Le nouvel ouvrage attendu de Maurice Chaudière est paru. Il relate les réflexions d'un apiculteur visionnaire à l'écoute des abeilles. L'auteur Maurice Chaudière répond aux questions de Jean Tonelli.
Moi, je trouve qu'on manipule beaucoup trop les abeilles, qu'on les tourmente beaucoup trop par simple spéculation pour en tirer le maximum de miel et qu'on n'a pas assez de respect de leur écologie. Moi, je voudrais qu'on manipule beaucoup moins les abeilles et qu'on respecte davantage leur autonomie.
C'est quoi le mode de vie d'une abeille? Qu'est-ce que c'est que leur écologie?
C'est un être multiple. Nous sommes des êtres singuliers. Mais la colonie d'abeilles, c'est un être multiple. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier la reine de ses ouvrières, ni de ses mâles. Il y a trois partenaires, si vous voulez, dans la même fonction qu'assure la grappe de l'abeille. Voilà, c'est un être multiple. C'est-à-dire laisser aux ouvrières la possibilité de butiner, de trouver leur provende pour qu'elles puissent nourrir la reine, etc. Mais il faut aussi assurer un logement convenable à cette grappe d'abeilles pour pas qu'elles se refroidissent et qu'elles puissent proliférer.
Qu'est-ce que c'est un logement convenable pour une ruche, pour un essaim d'abeilles?
Ah oui, alors là j'ai un point de vue peut-être très particulier ou très personnel. C'est que quand j'étais tout enfant, j'ai vu que les abeilles, quand elles se mettaient en essaim et en grappe sur un arbre, elles avaient tendance à avoir une forme ovoïde. C'est-à-dire que j'ai pensé que la manière de les protéger, ce serait une forme d'œuf. Et il y a quelque chose qui me confirme dans cette option, c'est que, comme je vous disais, c'est un être multiple et qui est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que les abeilles ne vivent pas très longtemps, mais l'être de la grappe doit vivre. Et donc les abeilles s'éliminent et pour assurer la survie de la grappe, la reine pond avec des ouvrières qui vont nourrir ses larves et se multiplier dans le temps. Parce que quand la reine meurt de vieillesse, elle peut mourir au bout de 5 ans même quelquefois, elle a pourvu à son remplacement. Justement, pour se multiplier, elle est obligée d'élever des larves. C'est-à-dire qu'elle a ce qu'on appelle un couvain, donc elle couve. Or, ce couvain, c'est un fœtus multiple. Il est toujours en voie de transformation de la larve à l'abeille. Et donc, il a besoin, comme le fœtus de poule, si vous voulez, de tous les fœtus qui vivent dans un œuf, il a besoin d'une forme dans laquelle il puisse évoluer et ménager cette déperdition de chaleur et pouvoir bouger, tourner aussi. Voilà, il n'y a pas de forme plus judicieuse que la forme d'œuf pour le protéger.
C'est ce que vous avez donc créé en poterie?
Oui, c'est ça. Ma poterie, c'est une cloche, donc c'est les trois quarts d'un œuf. Et quand je la renverse, je ferme complètement l'œuf en posant sur la ruche culbutée une grille à reine et une calotte qui donne exactement la forme de l'œuf. Voilà, à ce moment-là, elles vont mettre le miel dans la calotte supérieure puisqu'elles ne peuvent pas supporter que leur miel soit en dessous du couvain. Dans la position initiale, le miel est au-dessus du couvain. Quand je la culbute, le miel est en dessous et ça, elles ne peuvent pas le supporter. Donc, elles vont le déplacer et le mettre à l'endroit où moi, j'ai envie qu'elles le mettent, c'est-à-dire à l'endroit où je peux le prélever sans déranger la grappe.
Et donc votre méthode, c'est d'avoir une ruche qui est en poterie, qui ressemble à un œuf, et quand vous trouvez que la saison est à son maximum, c'est-à-dire que le miel est dans le grenier, vous culbutez la ruche pour qu'elle remonte le miel au grenier dans une partie qui est amovible et qui va vous permettre de récolter ce miel.
Voilà, vous avez tout compris. Dans une telle attitude, si je prends de l'argile et avec du soleil et de l'eau, je peux faire la poterie, puisque je suis potier. Je peux installer les abeilles, elles s'accommodent très bien de cette forme. Finalement, je peux récolter le miel sans avoir hypothéqué du tout les énergies de la nature. Alors que dans la moindre ruche traditionnelle en bois, imaginez un peu ce qu'il faut faire pour avoir une ruche. Il faut d'abord abattre un arbre, on l'abat avec une tronçonneuse, et avec quoi on fait une tronçonneuse, etc., etc. Si on remonte la filière de cette évolution, si vous voulez, on se rend compte que la moindre construction en bois coûte beaucoup d'énergie à la nature. Et moi, je peux finalement obtenir un miel équivalent, sans aucun intrant, sans mettre de cire gaufrée, sans cadre, sans rien. C'est seulement le travail des mains et la bénédiction, si j'ose dire, du soleil. On ne peut pas trouver de miel de qualité supérieure, je dirais, à floraison égale. Ce miel est parfait et il est dans une cire vierge, donc on peut le manger directement dans sa cire. Et la cire se digère quand elle est vierge.
Puis en plus, quand vous mettez votre réserve de miel sur un pot avec une vitre par-dessus, le miel va couler en premier et la cire va couler en second, ce qui fait que vous avez operculé votre miel sans y toucher.
Voilà, la cire va s'ouvrir et libérer le miel. Mais alors, évidemment, des gens me disent « oui, mais vous chauffez ». Alors, on chauffe très peu puisque quand j'ouvre la ruche, elle est à 35 degrés. Et il faut quelques degrés de plus pour ramollir la cire et qu'elle lâche, elle s'ouvre, elle lâche le miel bien avant que la cire ne fonde. Voilà. Et en plus, on n'est pas obligé de fondre le miel, on peut le manger directement en rayon. Ça, c'est la prédation, si j'ose dire, la plus lointaine, celle des hommes de la préhistoire. Ils mangeaient le miel en rayon.
Oui, comme les ours le font encore.
Mais oui, bien sûr.
Vous faites un prélèvement une fois par an de miel ou vous en faites plusieurs avec votre ruche?
Dans le cas de ce culbutage, quand je récolte la hausse, j'enlève tout le miel. Donc ces pauvres abeilles vont être privées. Elles ont besoin de miel pour chauffer leur couvain, comme je vous l'ai dit. Et donc c'est un traumatisme pour elles. Et l'important, c'est de le faire à une saison où beaucoup de nectar afflue. Puisque le miel que j'ai récolté, en fait, c'est celui qu'elles avaient déjà stocké et qu'elles ont déplacé. Et donc je l'enlève et il n'en reste plus rien. Et donc, il est important de remettre la ruche d'aplomb sur sa base pour qu'elle puisse à nouveau récolter du nectar. Voilà. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, de façon justifiée, « Monsieur, vous traumatisez beaucoup les abeilles. » C'était un monsieur très connu, que je nommerai pas, qui écrit beaucoup de livres. Je lui dis « Oui, bien sûr, mais vous ne les traumatisez pas. » Il m'a dit « Ben non. » J'ai dit « Mais les abeilles ont leur fondation au plafond. » Quand vous ouvrez une ruche à cadre, vous commencez par la décapiter, vous enlevez le plafond. Et ensuite, vous ouvrez la ruche, une fois ouverte, vous prélevez un cadre. Mais c'est quoi? C'est une véritable éventration. Vous sortez un organe, un cadre, un rayon d'abeille avec son couvain, c'est un organe. Et tout ça, c'est pas traumatisant. Ce qui est traumatisant, c'est de culbuter alors que je ne touche pas à la cohérence de la grappe. Je la retourne seulement. Voilà, alors évidemment, il n'était pas d'accord, mais peu importe.
Aujourd'hui, on a des problèmes avec le varroa, on a des problèmes avec le frelon asiatique. Est-ce que ce type de ruche a une incidence par rapport à ces deux fléaux?
Avec cette ruche, il m'est difficile, puisque je ne peux pas toucher à l'intérieur de la grappe d'abeilles, aux constructions, il m'est difficile d'aller voir s'il y a des varroa sur le couvain. Et donc j'ai imaginé un autre type de ruche, et je fais des concessions au système de cadre à ce moment-là. Donc j'ai conçu ce que j'ai appelé l'extensible. C'est une ruche qui n'est formée que de cadres. Ils sont jointifs et donc ils constituent la caisse. Il n'y a pas de caisse. Donc il y a un avantage énorme, c'est qu'à tout moment, je peux consulter les abeilles, c'est-à-dire ouvrir simplement, même en plein milieu de la colonie, j'écarte deux cadres sans déranger tout le reste et je vois, je suis en plein milieu du nid à couvain et je vois dans quel état elle est et si elle est parasitée. D'autant plus que comme il n'y a pas de caisse, je peux avoir une lecture extérieure de cette ruche. Donc je peux marquer avec un signe le cadre de couvain mâle, s'il y a des mâles. Et donc comme les parasites viennent surtout sur ce couvain mâle, je peux consulter l'élément perturbé par le parasite. Il semblerait que nos abeilles se soient un peu adaptées à ce fléau et qu'elles résistent. Et moi j'en ai la preuve chez moi, parce que dans mes ruches, je ne mets absolument aucun corps étranger. Le minimum de cire gaufrée, 1 cm suffit dans le cadre pour les guider. Voilà, je ne mets pas d'amitraze et tous ces produits qui sont toxiques et qui détruisent finalement les défenses immunitaires de la reine. Parce que la reine survit aux abeilles et donc c'est elle qui prend toutes les doses de traitement, de poison finalement qu'on met dans la ruche.
En fait, c'est bien ce que vous disiez depuis le début, c'est vraiment une apiculture douce.
D'argile et d'abeilles, un ouvrage signé Maurice Chaudière,